RCF.
Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un. C'est dans ce verset de l'évangile de Jean que s'enracine la question, le problème, cette question œcuménique que nous allons évoquer avec vous, Marie-Jo Guichenuit, dans ses haltes spirituelles. Bonjour à vous.
Bonjour Véronique.
Vous êtes déléguée épiscopale à l'œcuménisme pour le diocèse de Lyon. Avant de plonger dans ces entretiens, j'aimerais que vous nous racontiez votre rencontre avec le mouvement œcuménique, avec cette préoccupation qui concerne précisément l'unité des chrétiens.
Il y a quelques années, quand j'ai quitté une mission auprès des aumôneries, le vicaire général m'a proposé d'être en mission d'animation pastorale à Oulin. Et il m'a dit « ça serait bien que tu prennes la catéchèse œcuménique ». Alors, j'avais entendu parler de ça, mais je savais pas du tout. Et j'ai dû plonger, comme un peu dans une piscine. J'ai plongé dans le bain. Et la catéchèse œcuménique, c'est des jeunes protestants et des jeunes catholiques du CE2 jusqu'en terminale qui, chaque mois, se retrouvent autour de la Bible pour faire œuvre de catéchèse.
Ça vous a tout de suite passionné? Il s'est passé quelque chose ou ça a été un peu laborieux, cette approche?
Ah, pas du tout, ça a été comme un poisson dans l'eau. Ce qui était important, c'est que on partait de la Bible, donc ça, c'était extraordinaire. La deuxième chose que j'ai trouvée passionnante, même si c'est parfois un peu délicat, c'est que il y avait une véritable recherche pédagogique, une créativité de ce côté-là. On avait des documents, parfois on n'en avait pas, mais on partait du texte biblique et on essayait d'imaginer comment le transmettre aux enfants et aux jeunes. Et ça, c'est assez passionnant parce que ça permet de faire œuvre d'imagination et d'essayer de voir comment les jeunes d'aujourd'hui peuvent entendre ces textes qui sont parfois compliqués, il faut dire.
Je parlais de problèmes ou de problématiques œcuméniques pour commencer cette série d'entretiens. Ça reste un problème, l'œcuménisme?
Ça dépend sous quel angle on le regarde. Comme je suis assez pessimiste, je dirais pas un problème. C'est vrai que on est différents, donc à certains moments, il y a des questions qui se posent entre nous, qui sont délicates. La plupart du temps, je dirais que c'est une méconnaissance qu'on a entre nous qui pose problème, ou bien des préjugés qui peuvent poser problème. Donc quand on va à la rencontre de quelqu'un et que à l'avance on se fait des idées, c'est sûr que ça peut pas faire. Alors que si on y va avec vraiment une générosité du cœur et en se disant « bon, il va m'apprendre quelque chose », je pense que ça, c'est extrêmement important.
Alors, il a beaucoup été question d'œcuménisme il y a une vingtaine d'années. C'était vraiment quelque chose qui, dans les milieux chrétiens, représentait une avancée, puis un gros investissement. On sentait qu'il y avait quelque chose vraiment qui était en train de se passer. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins, voire plus. D'après vous, pour quelles raisons? C'est parce que c'est entré dans les mœurs? Est-ce que ça n'est plus du tout d'actualité? Est-ce par désintérêt?
Alors, d'actualité, ça le sera toujours. Tant que on n'aura pas mis en œuvre complètement ce verset de Jésus, justement, ça sera une question essentielle dans la vie chrétienne. Pourquoi on en parle moins? Parce que je pense qu'il y a tout ce que vous avez dit. À la fois, il y a des choses qui sont en cours et il y a des tas d'expériences qui se vivent et on ne le claironne pas. Je pense aussi que c'est l'effet d'une génération qui est en train de... On est en train de finir quelque chose là avec cette génération qui a été laborieuse. Et maintenant, on a une nouvelle génération qui arrive avec une certaine forme de repli identitaire pour certains. Et pour de l'autre, avec les plus jeunes, ils se posent pas ces questions-là, quoi. Et ils se posent pas les questions sous la forme théologique. Quand je vais à thèse avec des jeunes, mais franchement, ils voient pas où est le problème. Ils disent, mais pourquoi on fait pas les choses ensemble, quoi?
Donc, dans une certaine mesure, c'est un peu entré dans les mœurs aussi.
Alors oui, franchement, oui.
Il y a des choses aujourd'hui qui sont assez évidentes et naturelles, qui ne l'étaient pas il y a 25 ans, qui posaient vraiment question.
Oui, mais il y a beaucoup aussi de méconnaissances. Par exemple, il y a encore des gens qui pensent qu'on ne peut pas se marier quand d'un côté il y a un protestant, de l'autre côté il y a un catholique. Alors que ça fait partie des choses relativement faciles à vivre ensemble aujourd'hui. Mais je connais des foyers mixtes dont ils ont un âge un peu élevé. On les obligeait à vivre ça dans la sacristie il y a 50 ans. Aujourd'hui, ça se fait dans les temples ou dans les églises sans problème et on fait la fête.
Réjo Guichenuit, qu'est-ce que c'est que l'unité ?
Alors ça, c'est un gros mot. Hein. Je pense que l'unité, c'est l'ouverture à l'autre, sans le réduire à ce que je voudrais qu'il soit, dans la relation aux autres, hein, dans ce que j'ai, moi, dans ma tête, la relation œcuménique. Hein. Plus tard, dans notre dialogue, on verra peut-être l'unité intérieure, mais je crois très fort à ça. Du coup, je pense à la folie de Jésus, parce qu'il nous demande de vivre l'unité. Mais il est le premier à avoir mis un peu de bazar dans tout ça. Quand il choisit ses 12 disciples, franchement, soit c'est un mauvais DRH, soit il est trop fort parce qu'il se dit peut-être que dans son idée, on va réussir à faire quelque chose avec eux.
Aussi différent soit-il.
Aussi différent soit-il. Alors évidemment, si on regarde le verre à moitié vide, bah, il s'est planté et ils l'ont tous abandonné. Au pied de la croix, il n'en restait pas beaucoup. Il a fallu attendre Pentecôte pour que ça... Mais quand on regarde après les Actes des Apôtres, par exemple, entre Pierre et Paul, c'est pas le grand amour en permanence. Entre Paul et Jacques, on sait pas bien, mais c'est pas tout à fait ça. Pourtant, qu'est-ce qui se passe ? Diffusion de la bonne nouvelle partout. Parce que finalement, Pierre et Paul vont se dire « Toi, t'es bon là, tu vas faire ça. Moi, je suis bon là, je vais faire ça. » C'est ce qui se dit au premier, ce qu'on appelle le premier concile, mais qui n'était pas tout à fait concile comme on va voir après. Mais dans les Actes, c'est un peu ce qui se sont dit. Toi, t'es bon avec les païens, allez, vas-y.
Moi, en fonction des compétences.
Voilà. Et en fonction des charismes, parce que je pense qu'ils avaient du tempérament tous les deux, mais en fonction du charisme et puis de la réalité. C'est-à-dire que Pierre, il n'a pas été très loin. Hein. Il a fait ce qu'il avait sous la main, c'était des judéo-chrétiens. Et puis Paul, il est allé partout. Et il a vu quoi ? Des Grecs. Donc il a fait avec des Grecs.
Donc l'unité, ce n'est pas forcément l'uniformité.
Non, ça, ce n'est pas du tout l'image que l'on peut en avoir, surtout aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, beaucoup d'églises pensaient l'unité comme les autres doivent revenir chez moi. Quoi.
Dans le giron.
Oui, c'est ça, on va dire. Aujourd'hui, on se dit que l'unité, franchement, grâce à la diversité, on peut apprendre des autres. Et puis, quand je regarde la nature, il n'y a pas que des coquelicots, il n'y a pas que des rosiers, il y a une diversité. La diversité fait partie de l'être, enfin de la création, et ça fait partie de l'être humain, je crois.
Là, vous parlez de diversité en supposant que c'est finalement une richesse.
Oui,
mais
tout à fait.
Qu'est-ce qu'on peut faire de la notion de différence ? Ce qui sépare, ce qui fait que l'autre me devient étranger.
Alors, je pense aussi que la diversité, elle se voit réellement parce qu'on a 4 évangiles. Hein. Donc, quand on les regarde, quand on les compare, c'est vrai, quand on voit les 3 premiers avec Jean, on se dit, tiens, il y a quand même des approches. Pourtant, les premières communautés ont décidé qu'il y avait 4 évangiles. On a essayé de faire un même évangile
dans les regroupements.
Voilà. Bon, les exégètes ont horreur de ça, mais quand même, on a essayé. Donc, ça marche pas bien.
Parce que dans les évangiles, il y a aussi des divergences, voire des incompatibilités. Quelquefois, il y a des choses qui se contredisent.
Quand il y a Jacques et Jean qui vont trouver Jésus en disant « Dis donc, tu n'aurais pas une place à nous faire, mais en premier, quoi. » Les autres, ils râlent. Et puis, c'est dans le texte, hein, on les voit râler. Donc, on sent bien que... Voilà. Donc, entre unité et uniformité, ça ne va pas ensemble.
Et différence et diversité ?
Alors, différence... Bon, moi, je dirais que c'est un peu synonyme, mais bon, en creusant un peu, sûrement qu'il y a des différences, en fait, pour le coup.
Ça fait peur, la différence et la diversité.
Mais pour tout. C'est-à-dire que combien de fois j'ai rencontré des familles qui ont un enfant handicapé me dire que dans la rue, c'est terriblement difficile. J'ai eu à l'aumônerie une famille avec un garçon lourdement handicapé. Franchement, il n'osait même pas sortir. Donc là, c'est... Voilà. Quand j'ai appris à connaître ce gars qui s'agitait dans tous les sens parce qu'il n'arrivait pas à contrôler ses membres, c'était plus facile pour moi. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas l'autre, c'est toujours compliqué. Et puis il faut s'avouer que c'est compliqué, quoi. Parce que si on fait contre nature, ça ne va pas aller. Tandis que se dire humblement, j'y arrive pas, mais je vais quand même essayer de savoir qu'est-ce qui se cache derrière, là, ça va. Par rapport aux églises, le problème, ça a été que il y a des lignes rouges. Alors, à quel moment la ligne rouge, elle est vraiment rouge? Ou à quel moment, voilà, je mets un palier en disant, bon, finalement, c'est pas l'essentiel, je vais aller à l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est le Christ, c'est l'évangile. Si on avait ce réflexe chaque fois, je pense qu'on avancerait sur beaucoup de choses.
Et ça permettrait de dépasser les appréhensions, voire les peurs?
D'aller à l'évangile?
De revenir à l'essentiel.
Ah oui, je crois, oui, franchement, je crois. Mais quelque part, c'est, comment dire, c'est naturel. Quand je vais quelque part dans un lieu que je connais pas, on se fait une image. Et puis après, c'est comme quand je viens à RCF, moi, je me fais une image. Et puis ensuite, je me rends compte que c'était pas si compliqué que ça. Parce que, on sait pas, quoi. Ou quand je vais chez le médecin la première fois, je me fais des idées. Et de fait, après, dans le dialogue, ça permet de comprendre beaucoup de choses de soi et de l'autre. Et là, du coup, on peut avancer.
Et là, c'est vrai aussi dans le domaine œcuménique et dans le domaine de l'unité des chrétiens.
Complètement. Connaître l'autre, c'est pour moi la priorité. Hein. Être en amitié avec l'autre. Et le pape François, même les précédents, il disait toutes les richesses qu'on peut recevoir de l'autre. Et c'est ça, c'est-à-dire être capable de dire ta diversité, c'est une richesse pour moi. Et pour moi, c'est ça le cœur de l'œcuménisme, de la relation œcuménique. C'est d'aller vers l'autre en disant tu as quelque chose à me donner de bon.
On vous retrouve demain pour poursuivre. Merci.
Merci.